Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado et on est diffusé à BPM Sport 91.9 à Montréal, mais c'est diffusé aussi à Québec et Gatineau également les lundis soirs quand c'est possible de le faire, les week-ends également. Alors, ben voilà, on est disponible partout où vous pouvez nous trouver. Hugues Léger, comment te portes-tu en direct de tes somptueux bureau de tennis Montréal?
Salut Alexandre, bonjour tout le monde, ça va très bien, super belle journée d'été encore hier, on prolonge le plaisir du tennis extérieur, donc j'ai bien apprécié ma journée de dimanche sur les terrains des Cantons de l'Est, et aussi cette victoire en Coupe Davis tout à fait remarquable de notre équipe, notamment avec Alexis Galarno, Gabriel Diallo et Vacek Pospisil.
Ouais, on va en parler un peu plus tard là, parce que j'ai des excuses à faire à cette équipe canadienne-là pour ceux qui ont écouté l'émission la semaine passée, je vais vous dire, ça n'a pas été mon meilleur call à vie. Deux petites choses là avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Dans un premier temps, je veux saluer un de nos auditeurs qui m'a écrit une bonne partie du week-end avec beaucoup de fébrilité pour me parler de la Coupe Davis. Je veux saluer Chucky Simard qui nous écoute, un gars de Québec, un gars qui trippe sur les remparts, les capitales, vraiment un gars, un tripeux de sport. Puis il m'a écrit tout au courant de la fin de semaine pour m'updater sur les scénarios possibles de la Coupe Davis, quand est-ce que le Canada allait être qualifié, m'a demandé mes commentaires sur les performances. Alors, beaucoup de passion du côté de Chucky, puis c'est toujours bien le fun de savoir que les gens nous écoutent puis qui ont de la passion. Puis il me demandait ce matin, là, à quelle heure est-ce que vous enregistrez l'épisode? Je pense qu'il y a hâte de pouvoir l'entendre. Alors, Chucky, tu vas pouvoir l'entendre assez rapidement. Là. On va le mettre en ligne peut-être autour de 2-3 heures cet après-midi, lundi après-midi. Alors, ça, c'est la première salutation de fait. Peut-être saluer également Isabelle Étier qui est au repêchage de la Ligue nationale féminine. Et j'en fais une petite mention parce que c'est quand même pas très loin du tennis puisque Billie Jean King est impliqué. Et c'est aujourd'hui le repêchage. Alors, j'ai bien hâte de voir Richard Labbé a lancé un pavé dans la mort aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu ça en parlant du fait que l'entraîneur ou entraîneuse de l'équipe montréalaise est une unilingue anglophone. Et là, ça a suscité tout un débat. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, mon cher Hugues. Parce que c'est pas le genre de questions qu'on pose quand on s'en fout. Et ça, écoute, quand on pose les mêmes questions qu'on pose aux Canadiens de Montréal, c'est bienvenu dans le sport professionnel. Puis je pense qu'au final, c'est une bonne nouvelle.
Oui, je trouve qu'il y a un buzz intéressant autour de la Ligue en ce moment, autour du repêchage qui a lieu aujourd'hui, justement. Les nominations, globalement, jusqu'à maintenant, ont fait pas mal l'unanimité. Les premières joueuses choisies à Montréal, notamment. Souhaitons que ça se traduise par des ventes de billets intéressantes et par des commanditaires qui soutiennent ce projet-là. Mais oui, ça fait toujours sourire. Hein? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui fait gagner ou quelqu'un qui parle français? On veut les deux à Montréal. Donc, voyons voir là, comment ça va se régler. Et la réponse habituelle, la personne va prendre des cours. Donc, à suivre.
Ah ouais, exact. C'est ce qu'elle a dit. Je vais apprendre le français. On entend ça souvent à Montréal avec le Canadien. Mais c'est ça, comme je dis, le simple fait qu'on en parle de cette façon-là, je trouve que c'est intéressant parce que d'une certaine manière, c'est placer le sport professionnel au même niveau que beaucoup d'autres sports professionnels puisqu'on le questionne de façon plus ardue, plus impliquée, je vais dire comme ça. Alors, repêchage, moi, j'ai l'impression que cette ligue-là, elle va connaître une bonne année. C'est sur le moyen terme que j'ai hâte de voir comment ça va se disputer, mais moi, je vais me faire non seulement un devoir, mais je vais dire un plaisir d'aller voir Marie-Philippe Poulin jouer peut-être dans un uniforme tricolore. Qui sait, on n'a pas tous les détails encore, mais écoute, c'est une des plus grandes joueuses de son époque et le sport féminin a plus que sa place. On est les premiers à en parler dans le monde du tennis parce que on est témoin à tous les jours d'un sport féminin, non seulement de haut niveau, mais absolument hautement divertissant. Et je suis à peu près convaincu que ce sera la même chose et ce ne sera pas vraiment un fardeau pour moi d'aller voir les Marie-Philippe Poulin et autres vedettes de cette ligue-là s'affronter. Et qui sait, c'est le spectacle et les rivalités qui vont peut-être générer beaucoup d'intérêt dans cette ligue-là. Faut pas oublier, il n'y a pas que le niveau ou que les mises en échec là, qui vont attirer le monde. Voilà, c'était mon éditorial sur la Ligue de hockey féminine qui est appuyée notamment par Billie Jean King. Et ça, c'est encore le fun de voir qu'elle n'a pas lâché le morceau et qu'elle veut continuer de faire ce qu'elle a fait il y a si longtemps, c'est-à-dire de mettre les femmes au centre du sport, au centre du monde sportif. Et puis, elle le fait magnifiquement bien. Cela dit, Hugues, notre mandat, c'est parler de tennis. Alors, sautons dans le vif du sujet. Coupe Davis, Canada, termine premier de son groupe. Et là, je vais faire des excuses. Je vais commencer avec des excuses. Parce que la semaine passée, j'ai dit, rien enlevé à Alexis Gallarneau, ce n'est pas Félix Auger-Aliassime. Et ça sera compliqué. On regardait le tableau, on se disait, oh, les Italiens sont forts, oh, les Chiliens sont forts. Et même la Suède, ben, tu te disais, ben, il y a un gars comme Imer, ça sera pas si simple que ça avec l'équipe B, pour le Canada. Et moi, ben, franchement, j'étais pas super confiant que cette équipe-là allait passer. Mais Alexis, je m'excuse infiniment. Et merci de m'avoir fait mentir. Quelle performance il aura fait, notamment contre les Italiens. Commençons avec ça, Hugues. Quelle performance d'Alexis contre les Italiens?
Ben, d'abord, le Canada a fait honneur à son classement de premier joueur mondial, première nation au niveau du tennis mondial, donc en remportant cette série de victoires qualificatives pour les finales donc qui auront lieu à Malaga à la fin du mois de novembre. On est maintenant dans les derniers 8 pays. Mais bon, c'est une performance remarquable, je le disais d'entrée de jeu au début du podcast. On jouait sans évidemment nos joueurs les mieux classés. Je parlerai jamais d'équipe B parce que j'aime pas du tout cette façon de formuler les choses là, mais on n'avait quand même pas nos deux joueurs les mieux classés, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov. Et la performance d'Alexis, Gabriel et Vachek a été tout simplement remarquable. Ils ont gagné 8 matchs sur les 9 qu'ils ont disputés le week-end dernier, contre quand même 3 bonnes nations de tennis, donc l'Italie, la Suède et le Chili. Alexis qui a fait flèche de tout bois, là, c'était de toute beauté ces matchs. Il me rappelait un peu le Alexis de Granby, où il était en mission. Je me disais, ce gars-là va gagner le tournoi, il n'y a pas de problème de la manière qu'il joue. Et c'est exactement ce qu'Alexis a fait. Il n'a pas échappé de 7 dans ses matchs de simple. Et sa victoire contre Sonego est tout à fait... devrait être un boost pour la suite de sa carrière, selon moi, parce que jouer à ce niveau-là contre un joueur, le top 30 mondial, qui a des grosses victoires aussi, c'est tout à fait remarquable. Donc, quelle belle équipe de Coupe Davis. Et je parlais avec l'ancien coach de Gabriel et Alexis ici à Tennis Montréal, Sébastien Prieur, qui me disait que la chimie a dû y faire pour beaucoup. Ces deux gars-là s'apprécient beaucoup, ils se connaissent très bien. Gabriel et Alexis, je les ai vus s'entraîner ici au Centre national la semaine dernière. J'ai parlé avec Alexis aussi. On voyait qu'ils étaient vraiment très relax et très confiants en même temps. Et ils nous ont prouvé de quel bois ils chauffaient. Ça a été vraiment impressionnant là, ce week-end en Coupe Davis pour le Canada.
Écoutez, si vous avez manqué ça ce week-end, bon, c'était la qualification pour la finale de la Coupe Davis et Alexis Gallarneau a remporté son match contre Sonego, mais juste qu'on place qui est Sonego, parce que c'est un gars qui a frôlé le top 20 mondial, qui est en ce moment 38e mondial, qui en théorie aurait dû avoir l'avantage sur Alexis Gallarneau. Mais je trouve ça tellement intéressant parce que ça prouve à quel point Alexis progresse à vitesse grand V présentement. Et honnêtement, on parlait de se rapprocher des tableaux de Grand Chelem et tout récemment. Avec des performances comme ça, là, il va se donner raison de peut-être en Australie, si ça se continue comme ça, il va peut-être bien être dans le tableau principal en Australie quand tu sais que tu peux battre des joueurs qui ont frôlé le top 20 mondial. Là.
Ben, rappelons quand même que Alexis est autour de la 200e place, Gabriel autour de la 150e place. Mais effectivement, ils peuvent rivaliser maintenant là, pour Alexis avec des joueurs du top 100, top 50. On sait que Gabriel a eu une victoire contre Dan Evans aussi à l'Omnium Park National à Toronto. Donc, un joueur top 20 qui s'est rapproché du top 10 à plusieurs reprises. Ils ressortent de cette Coupe Davis-là en se disant, OK, on peut jouer avec les meilleurs maintenant. Et je m'attends à une très belle saison 2024 pour les deux. Là, ils savent ce qu'ils peuvent faire maintenant. Je vais ajouter un petit point sur les conditions parce qu'on jouait en Italie à Bologne. L'Italie jouait, bon, il faut quand même le souligner, sans ces deux mieux classés aussi que sont Yannick Sinner qui s'est retiré après l'US Open de la Coupe Davis et Berrettini qui s'est blessé au US Open. Et ils avaient choisi de jouer en intérieur sur une surface très rapide. Et Alexis me disait, quand je lui ai parlé la semaine dernière, qu'ils étaient un peu surpris de la rapidité de la surface, justement. Et je pense que cette surface-là a bien servi les Canadiens et notre style de jeu. On sait qu'on joue beaucoup en intérieur au Canada parce que les conditions d'hiver, évidemment, nous obligent à jouer à l'intérieur. Et que Sonego et Musetti, les deux joueurs de simple de l'Italie, sont plutôt des joueurs de surface lente, voire de terre battue, généralement. Et je pense que les Italiens se sont fait un peu avoir à leur propre jeu là, au niveau de la sélection du lieu et de la surface, parce qu'on sait que l'équipe haute peut choisir où le tournoi a lieu.
Oui, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu amènes. Puis, écoute, des spécialistes de surface, il y en a beaucoup. Puis, tu as raison de dire que le Canada, à l'intérieur, ben, de façon générale, s'en tire très bien. Et Félix l'a prouvé l'année passée en fin de saison, dans la saison sur terrain dans laquelle, vers laquelle on se dirige là, présentement, d'ailleurs. Ben, peut-être que ça a joué contre eux, mais il reste que, honnêtement, moi, quand je regardais l'affrontement Canada-Italie la semaine passée, pour être bien honnête, je ne donnais pas cher de la peau du Canada.
Et Alex, je veux être clair, je dis ça sans rien enlever, évidemment, à la performance de Gabriel et de
Ben d'Alexis, non, ben non.
Mais ça fait partie du contexte quand même.
Mais c'est ça. Tu sais, quelle performance. Puis, tu sais, Alexis, un peu plus tard, il a battu Tabilo, représentant de la Chili. Et ce qui est intéressant, Tabilo, ben, c'est que c'est un Canadien. Alors, ça, c'est un affrontement tout Canadien. Là, bon, évidemment, il représente le Chili. Il y a quelques joueurs là, comme ça, des fois, qui changent de pays pour toutes sortes de raisons. Ben, on l'a vu la semaine passée avec Aaron Rutliff qui a gagné le US Open en double avec Gabriela, alors que c'est une. Néo-zélandaise, mais elle est très, très, très canadienne. Elle est passée par le Centre national, je le rappelle. Nicolas Richard, comment te portes-tu? As-tu encore des frissons de cette belle performance de la Coupe Davis? Le commentaire général de cette performance-là des Canadiens ce week-end? Ben, la semaine passée, en fait.
Hallucinant, je bondis sur ce que Hugues disait, ce qui me ravit chez Alexis, qui était vraiment dans une forme extraordinaire. Là, sa rapidité m'a sidéré. On sait Alexis extrêmement explosif, mais je trouve qu'en très peu de temps, entre ce qu'on a vu à Toronto, entre ses entraînements à Toronto et ce qu'on a vu à la Coupe Davis, pour moi, c'est deux joueurs complètement différents. Autant il demeure avec son ADN qu'il est un combattant, un joueur qui ne perd aucun point, qui refuse de mourir sur chaque point, mais surtout, j'ai aimé la rapidité qu'il a jeté à son jeu. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je veux souligner, c'est à quel point Alexis, peu importe ce qui arrivera au cours de sa carrière, ce qu'il a fait cette semaine, pour moi, c'est cocher balancé, c'est-à-dire qu'il pourra, avec fierté, dire qu'il a joué à ce niveau-là dans le tournoi le plus compétitif sur le plan international. Ce qu'il a livré pour le Canada ce week-end, personne ne pourra lui enlever. Mais c'est de bonne augure. Comme je vous disais, tu sais, peu importe ce qui va arriver, s'il perce le top 100, s'il se qualifie pour un huitième de finale Grand Chelem, s'il peut être un excellent joueur de Coupe Davis, pour moi, c'est une mission accomplie. Voyons voir ce que l'avenir nous réservera, mais ce qu'il a démontré au cours de cette semaine-là en Italie, ça a été vraiment, vraiment sublime. Je suis extrêmement content pour Alexis Gallardo.
On fera pas trop un débrief de qui le Canada va affronter dans son prochain affrontement parce qu'on ne le sait pas encore. Puis on reviendra sur cet affrontement-là quand ce sera plus défini là, quelques semaines, un mois d'avance, là, à savoir si ce sera l'Australie ou la Finlande. On s'en reparlera un peu plus tard. Je pense que c'est prenable dans les deux cas, là, mais on verra quand le tableau sera complété, on en fera une analyse un peu plus précise. Je veux qu'on parle de Gabriel Diallo, puis on va parler de Vacek Pospisil par la suite. Diallo aussi a été complètement spectaculaire, Hugues, parce que, écoute, il a très bien fait quand même contre Nicolas Jarry, mais des belles victoires contre Imer, que ce n'était pas donné contre la Suède et contre Musetti. Écoute, là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a donné cher de la peau de Diallo avant le match de Musetti. Là.
Je veux rappeler que Musetti menait 2-7-0 contre un certain Novak Djokovic l'an passé à Roland-Garros. Je crois que c'était au quatrième tour ou en quart de finale. Musetti, c'est un des très, très, très bons joueurs du circuit. 18e mondial, jeune Italien, super brevet à une main, je le mentionne. Et Gabriel, écoute, encore une fois, une victoire avec panache. Et je ramène encore le sujet de Sébastien Prieur, qui est mon voisin de bureau aussi, directeur technique à Tennis Montréal, qui a été un des premiers coachs à Gabriel. Puis il dit, Gabriel, de la façon qu'il joue en ce moment, il va monter dans le top 50, c'est presque sûr. Là. Il y a plusieurs victoires maintenant convaincantes là, sur des top 30, top 20 maintenant. Donc Gabriel aussi, on a vu toute la profondeur du tennis canadien. Et je le soulignais sur mes réseaux sociaux ce week-end. les analystes qui disaient que le bateau du tennis canadien était en train de couler il y a 3 semaines. J'espère qu'ils ont regardé les matchs du week-end parce qu'on a vu la profondeur du tennis canadien. Et là, on se trouve devant un beau problème pour Frank Dantsevic, qui est coach de l'équipe, qui on amène pour les finales à Malaga à la fin novembre. Parce que là, on a vu une équipe soudée avec une chimie qui fonctionne avec un niveau exceptionnel, avec évidemment Alexis, Gabriel et Vachek. Mais là, il y aura un autre bon puzzle au niveau du choix des joueurs pour la finale. Mais imagine les gars, si Félix et Dennis reviennent en pleine forme et ont envie de jouer pour les finales, on va avoir une équipe vraiment redoutable avec des mix au niveau des joueurs qui vont être sur les terrains qui sont tout à fait... qui pourraient être surprenants pour une équipe adverse. Donc, vraiment, vraiment impressionnant ce qui se passe en Coupe Davis. Puis je suis tellement fier que le Canada amorce la défense de son titre de cette manière-là avec des joueurs qui ne sont pas nos plus grandes vedettes. C'est vraiment un super week-end qu'on a vécu.
Sais-tu ce que je me suis posé? La réflexion que je me suis fait ce week-end, Hugues, puis ça m'a fait mal de faire cette réflexion-là, mais je me suis posé la question. Si Félix Auger-Aliassime vient disputer la Coupe Davis, qui joue plusieurs matchs, est-ce qu'on gagne quand même contre l'Italie? Parce que de la façon dont Félix a joué récemment, écoute, il est un des meilleurs joueurs au monde, personne ne le conteste, mais il a de la difficulté à gagner. Alors, t'es Frank Dantsevic, puis là, tu vois ça. Je sais pas, je me suis posé la question. Je ne dis pas que, regarde, t'es Frank, tu fais jouer Félix. Tu ne te poses pas de question, tu fais jouer Félix. Regarde.
Ben Alex, je pense justement, on a touché au point plus tôt. Je pense que le fait que ça se jouait indoors, en intérieur, que Félix a eu ses plus grands succès en tournoi intérieur l'automne passé, ça aurait été une condition de jeu qui aurait tout à fait bien convenu à Félix. Et je pense que Félix, en forme, aurait fait partie des deux joueurs de simple.
Oui, puis il aurait gagné possiblement ces matchs-là, mais ça, ce que j'aime, Nico, c'est que, bon, ça fait quelques années qu'on dit qu'on a beaucoup de bons joueurs, là. On parlait de Milos Raonic, on parlait d'Eugénie Bouchard, mais là, on est rendu avec de la profondeur, ce qu'on n'a virtuellement jamais eu au Canada.
Bien, c'est un beau problème, les gars. Il y a des nations qui se demandent... quels joueurs pourront-ils faire jouer? S'il y en a un qui est de niveau, ben nous, au Canada, on en a plusieurs. On est à se demander qui on devra couper plutôt que qui on devra faire jouer. C'est évident que dans le cas de Gabriel Diallo et d'Alexis Galarneau, dont vous faisiez mention, ils rendent la tâche, je l'avais dit, extrêmement compliquée pour l'entraîneur-chef. Parce que d'un côté, on a aussi un Vachek Pospisil qui est une référence, qui est une certitude en double. Après, Alexis, oui, peut faire le boulot, Gabriel aussi, mais évidemment que, comme vous l'avez dit, si on a un Félix Auger-Aliassime en santé qui se présente, même chose pour Denis Shapovalov, ce sont presque des places assurées. Après, c'est une gestion extrêmement complexe, extrêmement délicate, parce que je suis convaincu que si Frank Dantsevic pouvait, il ferait jouer tous les joueurs, il amènerait du moins tous les joueurs, mais après, comme je me répète, c'est un fichu de beau problème.
Bon, je ne veux pas lancer un pavé dans la mort, mais est-ce que ça en dit pas long présentement sur le niveau de jeu de Vachek Pospisil si on a décidé d'y aller avec les deux kids au départ? Et là, évidemment, Diallo et Galarneau ont donné raison à Frank, mais moi, j'ai été surpris quand même de ne pas voir Vachek, ne serait-ce que par l'expérience. Vous allez me dire, il n'a pas gagné avec autant de régularité, il n'est pas sur sa meilleure séquence, c'est vrai. Mais c'est quand même le joueur avec le plus d'expérience et qui a eu le plus de résultats probants dans sa carrière. Nico, je commence avec toi.
Je me suis moi aussi passé la même réflexion. Parce que ultimement, comme je le disais juste avant, Pospisil est une référence en double. Il demeure le meilleur joueur de double de sa génération, champion Grand Chelem. Il a quand même gagné son match de simple, les gars, et je pense que ça brouille les cartes. Hein. Je pense, imaginez Vachek Pospisil qui se fait dire non, on va te garder sur le banc de touche pour le match de double. Imaginez la motivation avec laquelle il est arrivé sur le terrain lors de son match de simple. Il l'a gagné. Personnellement, je suis d'avis de l'école de ceux qui pensent que dans ce genre de compétition-là, le leadership est presque aussi important que le talent. C'est-à-dire que je ne pense pas que tu peux te priver d'un Vachek Pospisil lors des rondes les plus importantes parce que dans un tournoi aussi rapide, aussi expéditif, où tous les éléments doivent être pris en considération, l'apport leadership de Vachek Pospisil, je pense qu'il est primordial. Après, sur le terrain, oui, c'est coup-ci, coup-ça. Oui, c'est peut-être pas une certitude autant que ce le fut dans le passé, mais simplement pour l'aspect leadership, pour moi, Vachek est un choix évident pour le reste des compétitions.
intéressant du côté de Vacek Pospisil. Hugues, tu veux ajouter un commentaire?
Les gars, n'oubliez pas que Frank peut habiller, entre guillemets, 5 joueurs. Donc, il n'y a pas de problème. Là. Si Dennis et Félix sont en santé, vous rajoutez Vacek Pospisil. Je pense, comme Nico, que c'est un leader important et il peut jouer durant plusieurs matchs, là, en simple et double au besoin. Plus Alexis et Gabriel, on a nos 5 joueurs pour la finale. Là. Après, les décisions qui seront prises au niveau des match-ups seront importantes quand même, mais on a une équipe qui est l'équipe numéro 1 au monde au niveau de la Coupe Davis, et donc, je le répète, une coupe par nation. On est la nation numéro 1 de tennis au monde en ce moment en termes de réussite et de profondeur. On a 100 points d'avance sur la deuxième nation qui est l'Espagne. Écoute, on fait la preuve, encore une fois, que le tennis canadien trône au sommet et n'a pas envie de laisser cette place-là. Et force est d'admettre que les résultats prouvent qu'on mérite d'être au numéro 1.
Messieurs, on va terminer sur le Canada parce qu'il y a deux autres petits sujets sur lesquels je veux vous amener sur la Coupe Davis. Parce que ce sera une finale sans la France, sans les États-Unis.
Sans les États-Unis, oui.
Sans l'Espagne. Il y aura la Serbie qui va être là. Et là, si j'ai bien compris le tableau, le Canada ne serait pas du même côté de tableau que la Serbie. Ça, c'est une méchante bonne nouvelle pour tout le monde. Mais vous pensez quoi particulièrement? Bon, les Espagnols n'avaient pas une équipe avec leur meilleur joueur. Davidovich Fekina était là. Mais les Américains avaient quand même Mackenzie McDonald, Tommy Paul et Frances Tiafoe. Et ne seront pas là.
Non, mais alors, quelle performance de la Finlande, là. Il faut quand même souligner là, cette victoire-là. Tiafoe qui a pété les plombs, ça a été... les Américains étaient là pour gagner, hein. C'était pas des figurants. Donc, c'est une très grosse surprise là, que la Finlande se rende à la ronde finale.
Ben, d'ailleurs, devrait être potentiellement là, un des adversaires du Canada, si je comprends bien là, comment le tableau est fait. Mais écoute, j'ai vraiment été surpris parce que les Américains avaient... possiblement sur papier une des meilleures équipes là, dans c'est la semaine passée finalement. Oui. Nico, qu'a pensé du fait que la France sera pas là? La France avait encore une fois, c'était pas leur équipe avec leurs meilleurs joueurs là, mais la France sera pas là, les États-Unis sera pas là et l'Espagne sera pas là.
Le tennis change, les gars, puis en même temps je me dis, comment dirais-je, oui, le tennis change, mais en même temps, je pense que les puissances doivent demeurer les puissances. Ça prouve à quel point, parfois, il y a des manquements au niveau de la transition. On le voit en France présentement. Oui, il y a de bons joueurs qui s'en viennent. Néanmoins, on n'est plus à l'époque de mon fils et de Tsonga. On doit assurer la relève. Je suis convaincu que Louis Morfiga, notamment, est un peu déçu de la manière dont ça se passe présentement parce que la France est une puissance, rappelez-vous. Même chose pour l'Espagne. Là, je pense que oui, bon, il y a Alcaraz notamment qui est un joueur pas si mal, dit-on, n'était pas là et je pense que ça aurait certainement aidé la cause de l'Espagne. Mais il en demeure pas moins que je pense que le succès d'une fédération se mesure à la manière dont on fait la transition entre les différentes générations. Oui. Présentement, pour la France, c'est pas le cas. Regardez les États-Unis, à quel point ça a été long entre l'époque de Roddick, Sampras, et Agassi. Et maintenant, 20 ans plus tard, on a enfin des futurs champions en Fritz, Shelton et Tiafoe. Donc, espérons que le Canada ne soit pas pris au piège dans ce genre de creux de vague-là lorsque Félix et Dennis ultimement accrocheront leur raquette. Mais pour moi, le succès d'une fédération de tennis se mesure par la manière dont on planifie les différentes transitions.
La continuité, absolument. Exact. C'est un très bon point.
Je ne suis pas allé voir les quotidiens en Espagne, en France et aux États-Unis, mais on a parlé souvent qu'en Amérique du Nord, et particulièrement au Canada, la Coupe Davis a un certain déficit de notoriété, ce qui n'est pas le cas en Europe et ce qui n'est pas le cas aux États-Unis parce que c'est super prestigieux.
Ben oui.
Et moi, je pense que les États-Unis, honnêtement, avaient peut-être l'équipe avec le plus de profondeur pour pouvoir aller gagner cette Coupe-là, la Coupe Davis. Et là, on ne sera même pas de la finale, Hugues.
Oui. Ah non, tout à fait, mais quand même, on parle de évidemment, beaucoup de joueurs se sont plaints encore du format, notamment à San Wawrinka cette année, mais il faut reconnaître encore que des joueurs comme Novak Djokovic, qui sort d'une victoire au US Open d'un été éreintant dans la chaleur des terrains durs là, des États-Unis et du Canada, fait le voyage 2 jours après sa victoire à Flushing Meadows pour aller aider la Serbie à remporter. Chapeau Novak Djokovic, là, moi je peux dire qu'il vient de gagner des points là, sur le méritait qu'il soit présenté en Coupe Davis pour aider la Serbie à gagner. Andy Murray, encore une fois, toute la passion qu'il a pour le jeu, on le sait. La journée où sa grand-mère, qui est décédée, avait ses funérailles, il laisse ses pas aux funérailles pour jouer en Coupe Davis. Match que la Grande-Bretagne, qui est aussi un des grands pays du tennis, gagne finalement lors du match de double in extremis. On voit que cette Coupe Davis-là peut déchaîner des passions, peut forcer des joueurs de premier plan à prendre des décisions pour jouer, justement. Donc, moi, je suis fan de Coupe Davis, là, vous le savez, les gars, c'est un des plus vieux trophées du sport. 1901-900, la première année de la Coupe Davis. Tous les grands noms du tennis sont sur ce trophée de la Coupe Davis, le fameux saladier d'argent qu'on a vu à Montréal cette année. Moi, je pense que la Coupe Davis a un avenir si les promoteurs jouent bien leurs cartes. Mais on voit que les joueurs ont une affection et un intérêt encore pour ce championnat.
Mais en même temps, les gars, ça revient à ce qu'on disait, en fait, ce qu'on dit depuis 3 ans, c'est-à-dire que parfois, je me demande à quel point on serait peut-être plus avantagé de bloquer une période donnée dans l'année, par exemple le mois de novembre, pour disputer la Coupe Davis. Imaginez si les 10 meilleurs joueurs au monde avaient la chance de représenter leur pays, à quel point d'abord ce serait plus attendu, plus écouté, mais surtout plus relevé et plus significatif. Après, bon, on sait à quel point c'est difficile dans le calendrier tennistique, mais je suis encore de ceux qui pensent qu'on devrait quand même bloquer une fenêtre pour permettre aux joueurs, à la fin d'une saison éreintante, de venir disputer, Hugues l'a dit, le trophée le plus prestigieux du monde du tennis.
D'un point de vue de la Coupe Davis, c'est sûr que ça ferait leur affaire, mais d'un point de vue de tous les autres joueurs qui n'ont pas accès à la Coupe Davis et tous les tournois qui sont planifiés, qui perdraient beaucoup de revenus.
Exactement, complètement.
Ton idée, elle est bonne, c'est juste qu'elle n'est pas aussi simple que de dire claque des doigts, bloque le calendrier.
Non, bien sûr. Mais dans un monde idéal, ce serait ça, je pense.
Exact. Mais si on va faire une courte pause, puis au retour, il y a des tournois qui se jouaient. La semaine passée, il y a Simona Halep qui a fait l'actualité. On va parler aussi, on va revenir sur le US Open. Hugues Léger, tu as des cotes d'écoute pour nous.
Séjournez dans l'une des magnifiques suites entièrement vitrées de l'hôtel Montville. Vous serez gâté grâce à un 30% de rabais sur votre deuxième nuitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive. Ambiance décontractée, design très recherché, techno bien maîtrisé, toujours amical, Montville, c'est Montréal. Venez découvrir cet hôtel incontournable et son restaurant Monem, qui met de l'avant des cocktails créatifs et des plats généreux inspirés de la gastronomie française. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
Hugues, je veux qu'on revienne sur quelques résultats du week-end. Là, vraiment pas. On fera pas un long bloc là-dessus, mais je veux revenir sur cette victoire de Krejcikova à San Diego. Mais c'est pas tant pour parler de Krejcikova, c'est pour parler de Sofia Kenin. Elle est de retour, peut-être là avec une finale, cette championne de Grand Chelem là qu'on attend. Alors Krejcikova, elle a remporté elle un titre, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner parce que c'était la finaliste, c'était Sofia Kenin, l'américaine de laquelle on attendait beaucoup. Mais là, les blessures et tout ça, elle n'est plus la championne de Grand Chelem qu'elle a été en Australie il y a quelques années. Et à Osaka, je veux te parler de Ashlyn Kruger. Pourquoi je te parle d'elle? Ben parce que, d'un, elle a remporté le tournoi, mais aussi parce que c'est une fille qu'on a vue à Granby. Et si tu te souviens bien, c'est elle qui avait battu Kayla Cross et Victoria Amboko. Et ça avait été, Amboko avait été et Kayla Cross avait quand même rivalisé de façon intéressante avec elle. Et bien là, c'est une fille qui vient de remporter un titre WTA. Alors, ben, bravo à Ashlyn Kruger. Et ben, je trouve ça intéressant de rappeler aux gens à quel point la Coupe Banque Nationale de Granby, c'est très fort.
Oui. Non, c'est encore une fois, on voit que le niveau qu'on amène à Granby chaque année est vraiment intéressant. Puis ça produit beaucoup de champions qui réussissent par la suite. Et rappelons-le, Alexis Galarno, champion cette année chez les hommes, Gabriel Diallo l'an passé, qui livre une performance incroyable à la Coupe Davis. C'est vraiment impressionnant. Sofia Kenin, premier titre en plusieurs années. Elle avait montré des bonnes choses quand même cet été. On la mettait plus trop dans le mix, cette américaine, mais visiblement, là, elle capable de produire encore du bon tennis. Donc, ça fait toujours plaisir de voir ça.
Oui, exact. Elle a fait la finale. Là. C'est Krejcikova qui a gagné le tournoi, mais quand même, c'est déjà un bon
résultat. Finale, là, pour une fille.
Oui, c'est ça qui a fait. Qu'on cherche un peu dans les dernières années, qu'on s'attendait à la voir dans le top 10 pour un bout, Sofia Kenin, mais enfin, on verra qu'est-ce que ça va donner. Je veux pas qu'on en parle trop, là. Vraiment, je voulais qu'on se concentre sur la Coupe Davis, et c'est pas nécessairement non plus des gros tournois. Autre chose qui a fait l'actualité cette semaine, Hugues, on va parler de deux éléments. Je veux qu'on revienne sur Simona Halep parce que là, c'est confirmé. Elle sera suspendue pour au moins 4 ans. Et là, ben, écoute, toi, ton premier commentaire quand tu as vu la nouvelle sortir dans notre group chat, comme on dit, tu as dit carrière terminée.
Oui. Et ça me rappelle étrangement Maria Sharapova. On parle d'une grande joueuse, ex numéro 1. Rappelons-le, elle a gagné Wimbledon en pas plus tard que 2019, hein, Simona Halep. Ça fait pas très longtemps. Finaliste à Toronto. Elle avait gagné à Toronto l'an passé. Donc quand même des performances de très haut niveau il n'y a pas très longtemps. Mais, encore une fois, beaucoup de controverses sur la durée de l'enquête. Ça a été très compliqué, très long. Elle a reçu beaucoup d'appui, Simona Halep, à travers cette situation-là. D'autres qui se sont pas gênés pour en rajouter un peu. Je pense à Serena Williams. Je pense à Eugénie Bouchard aussi, qui semble avoir un nouveau cheval de bataille avec les rumeurs de dopage. Mais je pense qu'on n'est pas à la fin de cette histoire-là encore, mais là où je m'en vais avec le parallèle pour Sharapova, c'est qu'on parle d'une joueuse qui était numéro 1, fin de carrière. Est-ce qu'on ne veut pas envoyer un exemple au circuit en faisant ça? Ça va être difficile pour Simona Halep de revenir, même si elle va en appel. On sait que quand on est coupé du circuit pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est difficile de revenir au plus haut niveau. Donc, moi, j'ai beaucoup de questions encore là, à travers cette enquête-là. Patrick Mouratoglou, qui était son coach au moment des faits, la soutient complètement. La Fédération roumaine la soutient. Beaucoup de questions encore aujourd'hui, mais si jamais l'appel ne peut pas aller rapidement, bien évidemment, ça ressemble à une fin de carrière pour Simona Halep qui serait très triste.
Je vais être très honnête avec toi. Depuis le début, on est... Je vais faire attention à comment je vais le phraser. Pas qu'on est sceptique, mais on a tous tombé en bas de notre chaise quand on a appris que Simona Halep était, non seulement enquêtée pour... Même pas condamnée, enquêtée pour dopage. On est tous tombés en bas de notre chaise. Il y a des joueurs que tu peux te dire, ou des joueurs que tu peux soupçonner un peu plus. Elle, on est tous tombés en bas de notre chaise. Et puis elle, depuis le début, elle réfute les accusations. Il y a même un spécialiste qui a analysé ses cheveux, un professeur qui a analysé dit « On ne condamne pas la bonne personne » ou « On condamne une personne innocente ». Il y a beaucoup de zones grises là, dans cette histoire-là. C'est pas aussi clair que ce qui semble un test très, très, très positif. Et puis, je ne sais pas trop comment analyser cette situation-là, mais enfin, il y a un comité là, qui a conclu qu'elle a volontairement enfreint les règles antidopage. Et bien, pour ça, elle est suspendue 4 ans. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'elle continue de clamer son innocence? Il y a des tests quand même qui sont assez concluants pour juger qu'elle est dopée. C'est quand même difficile de voir clair. Peut-être qu'on est biaisé. Peut-être qu'on refuse de voir la vérité parce qu'on a tellement été surpris par ça puis qu'on est des fans de, entre guillemets, de Simona Halep. C'est une Montréalaise d'adoption, une Canadienne d'adoption. Elle a gagné le tournoi. Puis, je veux dire, elle n'a pas non plus le physique le plus imposant non plus qui pourrait nous laisser croire à toutes sortes de dopages. Quoique, différents types de dopages.
Il y a toutes sortes de drogues. Il y en a que c'est au niveau, au niveau respiratoire. C'est pas toujours au niveau de la musculature ce qu'on recherche comme impact.
Elle a blâmé.
Beaucoup de questions encore, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Il y a peut-être d'autres rebondissements dans cette histoire-là.
Elle a blâmé, elle, une contamination de ses suppléments alimentaires. Ironiquement, c'est souvent l'excuse qu'on entend quand il y a un cas comme ça. C'est le classique. Maintenant, on n'est pas dans le secret des dieux. Elle dit qu'elle va poursuivre l'entraînement et qu'elle observe d'autres recours judiciaires. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, cette histoire-là. Je reste un peu, pas ambivalent, mais curieux de voir comment tout ça va se dérouler. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini, comme tu le disais, d'en entendre parler. Enfin, c'était l'update sur ce qui se passe du côté de Simona Halep. Ça a fait beaucoup jaser là, et ça a fait réagir. Tu l'as dit, là, Serena Williams, qui l'a... qu'il l'a narguée d'une certaine manière parce que elle a mis une photo où est-ce qu'on voyait Simona Halep et Serena Williams et c'est Simona Halep qui avait gagné le titre Grand Chelem. Exact, à Wimbledon. Et Serena a dit 8 is a better number comme si elle avait pu remporter son 8e Grand Chelem. Ouais. Mais ça, d'un autre côté, ça pose beaucoup de questions parce que là, tu commences à te dire, OK, d'abord, si elle est coupable, Est-ce que les autres titres sont aussi légitimes? Tu sais, je vais être très, très transparent avec toi et là, on dirait que j'en fais une émission d'opinion, mais moi, Marin Cilic n'a jamais été mon préféré pour cette bonne raison-là. Puis quand il a gagné l'US Open, après avoir été suspendu pour dopage, je graffinais un peu, je t'avoue. Fait que tu sais, je sais pas. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais ça remet en doute plusieurs trucs. Enfin, c'était le... Ouais. De côté pour Simona Halep, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet-là.
Non, mais c'est une grosse nouvelle quand même. Puis moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va suivre sur cette histoire-là, parce que je pense qu'on n'est pas au bout des rebondissements là, sur ce sujet-là. Mais encore une fois, je vois un parallèle. Je me dis, est-ce que les circuits ne tentent pas d'envoyer des signaux avec des joueuses en fin de carrière qui ont été numéro un pour dire « Attention, on va rien laisser passer. » Est-ce que c'est une façon habile de mettre de la pression sur tous les joueurs et joueuses avec des annonces comme celle-là? Pourquoi cette enquête-là a été aussi longue? Question.
Ben, ça, elle en a parlé de dire à quel point les démarches ont été incroyablement longues. Enfin, j'ai bien hâte de voir, mais je suis bien d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire-là. Puis, je serais pas surpris éventuellement qu'on apprenne que finalement, c'était pas aussi dopé qu'on pensait ou finalement, c'est clair comme de l'eau de roche. Enfin, pour l'instant, ça me semble pas clair comme de l'eau de roche tout ce débat-là. Là. Puis, comme je dis, on est peut-être aveuglé par nos propres biais. On va terminer l'émission avec Guadalajara là, parce que je veux qu'on y aille en terminer un peu plus tard dans l'émission parce que, bon, ça se déroule en ce moment. Fait qu'on va laisser quelques résultats se jouer. Là. Mais avant d'aller à Guadalajara, où les Canadiens l'ont bien fait notamment, mais je veux qu'on revienne sur le US Open parce que, bon, tu avais des ventes de billets records pour nous, mais là, tu as des cotes d'écoute télé qui sont particulièrement significatives au US Open par rapport au final.
Écoute, la finale Coco Gauff, Sabalenka a attiré sur ESPN 3,4 millions d'auditeurs. C'est un chiffre, un très beau chiffre pour la finale féminine. Mais ce que je retiens surtout, c'est que la finale masculine, finale du 24e Grand Chelem pour Djokovic, qui est le record absolu, on le sait, n'a attiré entre guillemets que 2,3 millions. Donc, 50% de moins de visionnement pour la finale masculine. C'est la deuxième fois, Alex, cette année, que la finale féminine donne des meilleurs chiffres que la finale masculine. Et à chaque fois, Djokovic était là pour battre un record ou en rattraper un. C'est son 22e en Australie, on le rappelle. La finale féminine qui a couronné Aryna Sabalenka en Australie avait mieux fait que la finale masculine avec Djokovic. Donc, Djokovic a besoin de Alcaraz pour faire des bons chiffres d'écoute. Les chiffres de Roland-Garros et de Wimbledon ont été très bons. C'est qu'il y avait un certain Alcaraz qui a drivé l'écoute, entre guillemets. Donc, moi, je me pose la question encore. Est-ce que Djokovic nuit à l'intérêt du tennis? Ou c'est les finales féminines qui ont attiré tant de monde? Mais c'est quand même remarquable que tu aies 1 million de moins d'auditeurs pour la finale masculine cette année au US Open.
OK, mais là, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Moi, le premier commentaire que je vais faire, c'est le suivant. La finale, elle est le dimanche aux États-Unis. Et le dimanche, c'est pas la journée de l'Église, c'est la journée de la NFL aux États-Unis. Ouais. Alors ça peut jouer beaucoup, je pense, dans l'auditoire. Cela dit, ce que tu as dit, et tu me corrigeras si j'ai mal compris, mais tu as dit que c'était cohérent avec les résultats en Australie où la finale féminine avait battu la finale masculine en Australie et là, tu n'avais pas de football dans les pattes. Là.
Non, exactement. Donc, c'est ça que je vais utiliser pour soutenir mon point. Et il y avait un nouveau diffuseur local en Australie qui était fou furieux parce qu'ils ont évidemment payé beaucoup d'argent pour la licence de diffusion des finales de l'Open d'Australie. La première année du nouveau contrat, les chiffres masculins étaient extrêmement décevants. Donc, effectivement, on sent que Djokovic, quand c'est que lui, encore une fois, c'était Medvedev, qui est un joueur qui est assez polarisant aussi, qui est très... Moi, nous, on est des fans ici au podcast, mais Alcaraz est la vedette du tennis en ce moment et celui qui fait que les gens parlent de tennis post-Big Three, et je pense surtout, évidemment, à Nadal et à Federer. Mais les performances d'écoute pour Djokovic ne sont pas très bonnes. Il faut quand même le souligner. Mais encore une fois, bravo à Coco Gauff. On parle des chiffres de ESPN aussi, donc joueuses américaines sur un réseau américain. Mais c'est quand même un écart qui est quand même considérable, 1 million. Là.
Mais là, c'est l'autre chose que je voulais t'amener. Si tu avais eu Francis Schiaffoe ou Taylor Fritz ou peu importe là, qui en finale, là, gars, Ben Shelton se rend jusqu'en finale. Penses-tu que ça, on est plus proche des... Parce que là, t'as Coco Gauff, qu'on attend depuis longtemps, qui est une... Là, je suis pas en train de défendre Djoko, là, c'est pas ça que je te dis, je fais juste bien établir les faits, là. Mais t'as Coco Gauff, qu'on attend, qui est une vedette montante du tennis, t'as une Américaine en finale, qui peut gagner l'US Open pour la première fois depuis Serena Williams. Écoute, est-ce que si t'avais eu un... En fait, ma question, c'est si t'avais eu un Américain, est-ce que les chiffres auraient frôlé ceux de Coco Gauff?
Ah, ils auraient sûrement dépassé. Là, tu aurais eu tout le monde. On a vu que l'underdog aux États-Unis, c'est une religion que de prendre pour l'underdog. Je pense que Tiafoe ou Fritz ou Tommy Paul en finale contre Djokovic aurait fait des bons chiffres. Mais quand Djokovic est la vedette de l'affiche, ça ne fonctionne pas. C'est ça mon point. S'il y a Alcaraz sur l'affiche avec Djokovic, ça va marcher. Mais s'il y a un Medvedev comme au US Open ou s'il y a un Tsitsipas comme en finale en Australie, c'est pas suffisant pour attirer de l'écoute.
Mais c'est pas la première fois que tu fais cet argumentaire-là et tu l'as pas juste fait au niveau des codes d'écoute. Tu nous as déjà fait une chronique dans le passé sur le fait que Djokovic, comme étant peut-être le plus grand joueur de l'histoire, avait absolument pas un niveau de commandite à la hauteur des Federer et Nadal. Et c'est un peu le même argument, dans le fond, que tu apportes, mais là, tu l'apportes au code d'écoute.
Exact. Son ratio bourse-commandite est quand même en faveur des commandites. Il y a des très beaux contrats, notamment avec Lacoste, mais la proportion de bourse par rapport aux autres joueurs est beaucoup plus élevée. Donc, effectivement, on voit que l'attrait publicitaire et marketing de Djokovic est moins intéressant que pour les autres joueurs.
Et peut-être que le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est il y a quelques années, alors que Djokovic chamenait pour le grand chelem calendrier. En finale, au US Open, les codes d'écoute étaient meilleurs pour Raducanu et Leila Annie Fernandez. T'as aucune Américaine là-dedans. Oui, t'avais deux sensations. Oui, c'était le samedi. Mais Colin, t'as un événement qui arrive aux 50 ans, puis t'as Djokovic qui bat pas la cote d'écoute du samedi. Je trouve que ça en dit long sur peut-être la dépréciation ou la faveur du public au niveau de Novak Djokovic. Et ça, c'était avant la pandémie? Oui, c'était avant la pandémie. C'était le tournoi.
2021.
OK, donc c'était le tournoi pendant la pandémie.
Oui, mais tu fais bien de le ramener parce qu'effectivement, je parlais des deux records de cette année, ils sont 22 et 24, mais il allait pour un grand chelem calendrier qui n'a pas été fait durant toute l'ère Open, et que c'est quand même tout un record quand on réussit ça. Et la même situation, c'était aussi contre Medvedev, on va le rappeler. Medvedev avait gagné cette fois-là. Mais Djokovic n'a pas l'attrait du grand public, du mainstream. Les fans de tennis qui apprécient sa force mentale, sa qualité de joueur, il est impressionnant, Djokovic. Moi, j'apprécie de plus en plus le regard des joueurs parce que ce qu'il fait, c'est tout à fait inédit en termes de réussite et en termes de résistance et au niveau mental. J'ai jamais vu un joueur sauver autant de balles de match dans des moments extrêmement importants en Grand Chelem que Djokovic. Mais force est d'admettre que Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde est plus ou moins attiré par Djokovic en finale.
Bon, intéressant d'apporter un autre argument à ce niveau-là. On va faire une courte pause de retour. On va aller faire un tour du côté du Mexique à Guadalajara. Il y a un WTA 1000 qui se dispute là et les Canadiens ont quand même eu un bon départ de ce côté-là.
Séjournez dans l'une des magnifiques suites entièrement vitrées de l'hôtel Montville. Vous serez gâtés grâce à un 30% de rabais sur votre deuxième nuitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive. Ambiance décontractée, design très recherché, techno bien maîtrisé, toujours amical, Montville, c'est Montréal. Venez découvrir cet hôtel incontournable et son restaurant Monem, qui met de l'avant des cocktails créatifs et des plats généreux inspirés de la gastronomie française. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
Petit tour au Mexique, à Guadalajara. Il y a WTA 1000 qui se joue là, mon cher Hugues. Et Eugénie Bouchard et Leila Annie Fernandez ont remporté leur match de premier tour. Et ça, en partant, c'est quand même une excellente nouvelle pour les Canadiennes. Bouchard, elle a battu Zarazua. Que j'ai été bien honnête avec toi, je ne connais pas, c'est une Mexicaine. Elle a battu en deux manches de 6-1, 7-6. Mais déjà qu'elle puisse accéder au deuxième tour, c'est quand même une bonne nouvelle dans son cas.
Écoutez, la nouvelle joueuse vedette de la Ligue de pickleball nord-américaine qui décide de jouer au tennis et gagne un match. Super. Moi, encore une fois, j'ai toujours du plaisir à voir Eugénie qui réussit à se décrocher une wild card dans un WTA 1000. Ils font en parler quand même. Hein. Elle fait quand même pas mal de points en gagnant un match. Elle a eu un 12 800 $ américains pour sa victoire en premier tour. Mais c'est quand même intéressant de voir cette victoire-là. Elle jouera son prochain tour contre Kudermetova. Et qui je vois dans le tableau juste après, si jamais elle passe, Yastremska, sa grande amie, où on s'appellera du no handshake au US Open. Mais bon, Eugénie gagne un match. Je m'attends, comme je vous ai dit, Alex, ce week-end dans nos échanges, quand elle va réussir à aller chercher un wild card, elle peut gagner un match ou deux, mais je ne m'attends pas à un parcours surprenant de la part d'Eugénie. Je serais surpris qu'elle gagne son prochain match contre Kudermetova. Je m'attarde plutôt donc au premier tour de Leila Fernandez. Victoire solide de Leila en 2-7, donc 6-1, 6-3, qui se retrouve maintenant contre Elise Mertens, la Belge, 13e favorite au prochain tour. Un match prenable pour Leila Fernandez, là, donc je vais suivre Leila avec beaucoup d'attention pour la suite.
Je ne sais pas si tu as regardé le tableau, là. C'est pas le WTA 1000 le plus fort qu'on a vu dans l'histoire, là, pour non, être bien honnête. Là.
Ben, tu sais, Alex, c'est un tournoi qui a été ajouté au calendrier en remplacement de tournois du côté asiatique, notamment en Chine. Donc, c'est un tournoi qui est passé de façon un peu incognito là, en mode 1000. La première favorite est 11 joueurs cette semaine. Maria Sakkari, deuxième favorite en bas du tableau. Donc, les top 3 ne sont pas là sur le WTA 1000. Mais bon, que les joueuses en profitent, là, celles qui sont sur le tableau, c'est quand même intéressant, notamment pour les Canadiennes. Il y a beaucoup de joueuses canadiennes sur ce tableau-là. Je regardais ça. Donc, autre Leila Fernandez et Eugénie Bouchard, Carole Zhao est là, Stacy Fong est là. Donc, c'est quand même un tableau intéressant pour les Canadiennes.
Oui, Carole Zhao, elle a tout un défi. Ouais. Là. Elle va affronter Sofia Kenin qui arrive d'une finale. On en parlait un peu plus tôt dans l'épisode, et c'est une petite fille qui a gagné un grand chelem, mais bon, elle n'a pas joué, elle n'a pas gagné avec la constance là, dans les dernières années, elle a eu des blessures aussi, mais quand même, tout un défi pour la Canadienne Carole Zhao. Et ouais. Stacy Fong, ben ça, c'est un peu surprenant de la voir là. C'est quand même une fille qui joue c'est pas compliqué, elle n'a pas joué de tournoi WTA cette année, et puis là, ben, elle se retrouve dans un tableau WTA 1000. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est une fille qui joue surtout des niveaux inférieurs. On joue contre Marta Kocsiuk, là, qui est une excellente joueuse. S'il fallait qu'elle passe, elle frapperait Ostapenko au prochain tour. Je lui souhaite le meilleur, Stacy Fong, mais ce sera pas simple. Mais la dernière fois que j'ai dit ça, Alexis Gallardo a détruit tout le monde sur un terrain, alors peut-être que ça va les aider. Mais voilà. Écoute, il y a Belinda Bencic qui est là, Madison Keys qui est là également, Sloane Stephens, elle a gagné son match de premier tour, elle est là également, mais c'est pas un tournoi où je m'attends à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, parce que bon, je pense qu'on devrait voir Ons Jabeur et Maria Sakkari se retrouver en finale, là, j'ai l'impression que en tout cas, on n'est pas à une surprise près, mais je pense que c'est à eux de perdre ce tournoi-là parce que c'est vraiment pas le plus fort. Il y a Camila Giorgi également qui est là. Elle a pu toujours être une espèce de chien dans un jeu de quilles. C'est une fille qui a gagné des milles dans le passé. Pliskova qui est là également, là, Carolina qui est l'ancienne numéro 1 mondiale. Caroline Garcia, c'est pas si mal, mais c'est pas à Montréal, c'était beaucoup plus fort.
Si on a un petit point sur Caroline Garcia qui sort du top 10 cette semaine après deux très bonnes années. Là, c'est plus compliqué pour Garcia cette année.
Oui, exact. J'ai hâte de voir. Mais prédiction, tu penses que Eugénie va... vous l'avez pas vu. Si vous nous écoutez en audio, vous l'avez pas vu, mais la face de Hugues était sans hésiter.
Encore une fois, je pense que Eugénie profite, elle le fait très bien de ses invitations. Eugénie fait vendre des billets, c'est une tête d'affiche qui est intéressante pour des organisateurs de tournois, mais je ne m'attends pas à ce qu'elle brûle le tableau cette semaine. Mais encore une fois, je le répète, elle fait bien d'y aller. Et moi, je suis content de l'avoir joué. Elle produit un tennis qui est excitant, un tennis d'attaque. Eugénie amène beaucoup d'énergie sur le terrain, mais bon, ça sera pas la relance de sa carrière à Guadalajara cette semaine. Je suis prêt à signer là-dessus.
Moi, je suis curieux de voir ce que Leila va faire dans ce tournoi-là.
Ça m'intéresse plus, par contre. Ça m'intéresse.
Parce que Leila, historiquement, fait très bien au Mexique. Elle a deux titres et ces deux titres-là sont arrivés à Monterrey au Mexique.
Exact.
Et c'est une fille qui, bon, a toujours moyen de charmer la foule avec son espagnol. Elle est, elle est un peu de cette communauté-là également. Et comme je dis, ben, elle joue toujours très bien au Mexique. Elle a battu la 349e raquette mondiale au premier tour. Elle affronterait Mertens au deuxième tour. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, mais elle a une fiche de 0-1 contre elle. Mais il reste que c'est quand même prenable pour elle. Après, ça pourrait être compliqué. Là, ce serait possiblement Keys ou Navarro. Navarro qui a battu des Canadiennes récemment. Puis après ça, ben, Ostapenko. Écoute, le tableau est pas simple, mais s'il y a un endroit où elle peut peut-être bien faire, ben, c'est au Mexique où elle se sent toujours un peu comme à la maison. Je sais pas, t'en penses quoi?
Puis on peut répéter, Alex, Leila est en recherche de séquences et de succès en ce moment. Elle est déçue de sa saison. Elle a eu un bon flash à Montréal avec sa victoire contre Béatrice Adadmaya, 12e mondiale. Mais Leila veut enchaîner des matchs. Elle est affamée de victoires. Donc, je suis très curieux de voir ce qu'elle va faire à Guadalajara.
Si vous voulez suivre Guadalajara, TVA Sport présente le tournoi. Je pense, j'ai entendu Sébastien Goulet à la radio ce matin dire qu'ils allaient diffuser en surprise Eugénie Bouchard. Et ça, ben, c'est une excellente nouvelle parce que Eugénie, c'est une fille qui continue d'attirer l'attention. On l'a vu à Montréal en qualification dans un stade presque plein pour un match de qualification. On a rarement vu ça. Alors moi, je pense que c'est une excellente décision de TVA Sport de pouvoir diffuser ce match-là. Alors si vous écoutez en après-midi, là, lundi, peut-être jeter un coup d'œil ce soir sur le match d'Eugénie. Moi, je vais sûrement l'avoir en background pas loin avec Sébastien. En plus, je suis toujours bien content d'écouter du sport avec Sébastien Goulet. Hugues Léger, ce fut un autre excellent épisode. Je m'excuse sincèrement une fois de plus, Alexis Galarneau, de t'avoir sous-estimé. Vraiment, j'aurais dû I should have known better, comme on dit en anglais. Mais quelle belle surprise. Et honnêtement, le Canada, s'il fallait qu'on appelle les meilleurs joueurs avec la profondeur qu'on a, on va peut-être avoir une équipe pour veiller tard et peut-être même, qui sait, défendre cette Coupe Davis-là et l'avoir un an de plus au pays, pourquoi pas. Hugues Léger, Nicolas Richard nous a quittés un peu plus tôt dans l'émission. Alors, ce sera toi qui auras la lourde tâche de terminer l'épisode d'aujourd'hui.
Un petit point avant, Alex. Yes. UTS qui se jouait le week-end dernier. André Roublev a gagné ce tournoi-là, exhibition, avec des moments intéressants quand même. Là, on a vu le coup gagnant droit de mon fils, notamment. Mais une formule, encore une fois, qui soulève certaines questions. Là, je pense que ça n'a pas trop d'impact sur le monde du tennis en ce moment, mais je voulais le souligner quand même. Mais j'en profite pour vous souhaiter à tous bon tennis et bon tennis, Alex. À très bientôt.